L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios le géopolitologue malien Adama Diabaté. Nous discuterons de l'état des lieux des relations militaires, sécuritaires, économiques, politiques et culturelles entre le Mali et la Russie et de leur avenir à l'aune du monde multipolaire en formation accélérée depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Nous aborderons en particulier aussi les attentes des pays africains du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra cet été à Saint-Pétersbourg. Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Adama Diabaté, géopolitologue malien. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Adama Diabaté, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant dans nos studios cet entretien.
Bonjour monsieur et merci beaucoup pour votre invitation. Et si vous permettez, je voulais profiter pour dire juste un petit mot à tout le Mali et à toute l'Afrique. Malien Beni Soroma, ou bien Nibé Malla, et Aouni Kle Nawe Rishla, Nana Rishla, ou bien invité à l'interview du Mambo Studio, là, au delà, même Mali Befoka, Malou Kanbani Frafin, Kanbavi Djeran, Djemo, Zébébé. Ça, c'était une entre parenthèses. Dans la langue locale.
Oui, j'ai compris.
Parce que c'est écouté chez moi. Et je suis vraiment reconnaissant de l'invitation et je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour commencer, vous avez participé cette semaine à la création du Congrès mondial à l'initiative de monsieur Sergei Lavrov, le Congrès mondial des russophiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, en quelques mots?
Oui, merci pour la question. C'est un mouvement, en fait, qui était déjà en gestation depuis longtemps. L'idée circulait, mais la réalisation manquait. Et les volontés, il y avait trop d'hésitation, alors que c'était une nécessité géopolitique, vu les réalités aujourd'hui dans le monde, les relations de la Russie avec l'Occident, et surtout la nouvelle dynamique dans les relations Russie-Afrique aujourd'hui, en particulier mon pays. C'est un mouvement qui est né dans ces cadres, comme je viens de le dire sans se répéter. La nécessité se faisait sentir depuis longtemps. Dieu merci que les auteurs l'ont compris. Et maintenant, on a essayé d'ébaucher les premiers pas. Ce n'est pas fini pour le moment. C'est le mouvement international des russophiles. Mmh. C'est un mouvement qui doit essayer de... qui ne doit même pas essayer, mais qui va faire de telle sorte que la russophobie, la haine, l'instrumentation politique des relations sociales qui se passe maintenant à travers les chaînes de systèmes de communication de l'Occident. Comme on dit, c'est des bonnes guerres aussi. Vous le savez très bien, parce que vous qui êtes dans les médias, il fallait entreprendre quelque chose pour au moins, pas autant comme certains disaient, lutter contre, mais amener de l'éclaircissement, de l'exactitude dans la fausse information qu'on fait circuler à séance pour des buts cachés ou parfois même mal cachés. Donc, le but principal de ce mouvement, c'est d'essayer chaque fois quand le besoin est là, d'expliquer au monde que l'image qu'on essaie de créer, l'image négative qu'on essaie de créer de la Russie ou bien de la culture russe ou bien des pays qui ont des bonnes relations avec la Russie comme mon pays, ce n'est que de la communication, c'est loin de la réalité. Et notre devoir doit être désormais de promouvoir cette voie que la Russie a empruntée et qui était un rêve pour nous, où le monde doit être un milieu où tous auront leur chance, et non seulement la jungle où c'est les seuls forts qui ont les droits, c'est-à-dire la raison du plus fort. pratiquement, c'est cette politique qui dérange beaucoup. Et ceux-là que cette politique dérange, ils essaient de ternir l'image de celui qui est le meneur de cette politique qui est la Russie aujourd'hui. Et nous qui avons été pour longtemps, disons, les victimes de cette politique hégémonique d'une partie du monde, nous comprenons bien la politique de la Russie, nous la supportons et nous sommes prêts à les aider par tous les moyens nécessaires sans pour autant être contre quiconque que ce soit.
D'accord, c'est parfait, l'idée est claire. Bien, alors la première partie, M. Adama Diabaté, sera justement consacrée au Mali. Et j'aimerais bien ça, qu'on essaye ensemble de faire un peu le topo sur la situation. Et comme vous le dites à juste titre, et montrer ce qui est vrai et du faux parce à travers ce qui est colporté dans les médias. Alors, ma première question... Donc, la nouvelle direction sous le commandement du colonel Assimi Goïta et du premier ministre Choguel Maïga, donc, elle a pris les rênes du pays suite à un second coup d'État, donc, qui a déposé l'ancien président, Ibeka. Et ma première question, où en est la situation politique dans le pays? Où on est la situation économique et sociale et où on est la situation sécuritaire? Est-ce que les deux ans passés sous la direction de M. Assimi Goïta ont apporté des résultats positifs palpables qui donnent de l'espoir aux Maliens dans le futur ou le bilan est mitigé, voire négatif?
Merci beaucoup pour la question. Une question très claire, bien que ça englobe beaucoup de questions. Et je ne veux pas essayer, mais je vais le faire. Je vais vous amener de l'éclaircissement et dire exactement comment ça y est dans mon pays, le Mali. Mm-hmm. Contrairement à ce qu'on pourra vous faire passer ici et pas seulement ici, à cause des raisons politiques, faire créer l'image, l'impression que dans le pays, rien ne va. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous dire que malgré qu'il y a ces sanctions inhumaines, injustes, illégales, parce que selon les statuts des Nations Unies, un pays enclavé comme le nôtre, pour prendre des sanctions contre un tel pays, il faut l'approbation des Nations Unies. Mmh. Une organisation régionale ne peut pas le faire. Mais malgré tout, sous pression extérieure, notre propre organisation sur-régionale qui est née sur l'initiative de mon pays, à adopter ces sanctions, jamais.
Vous voulez dire la CEDEAO, la Communauté économique des pays
de l'Afrique de l'Ouest.
Voilà.
Sanctions jamais égalées dans l'histoire, totalement illégales, et jusqu'à présent, le côté économique, ils ne l'ont pas enlevé. Mais malgré ces sanctions, malgré ces velléités malsaines de la part de certains anciens maîtres, je peux le dire aujourd'hui, d'ailleurs du fait qu'ils sont déjà anciens, d'où cette attitude à notre endroit, mais que je les assure que ça ne va pas nous dissuader de la voie qu'on a empruntée, parce que le peuple malien est résolu. Ce n'est pas seulement les dirigeants maliens. Ce que l'Occident ne comprend pas, aujourd'hui, les changements qui se passent au Mali ne sont pas seulement la volonté et l'initiative de ceux qui sont au pouvoir. C'est quelque chose qui vient du bas. Aujourd'hui, dans le monde entier, mais en particulier en Afrique, la jeunesse se réveille. Et se réveille parfois plus vite que les anciens maîtres n'y réalisent. D'où ce problème d'adaptation, du réalisme dans leur politique, dans leur approche à leur ancienne colonie. C'est la manifestation de telle situation, c'est le cas particulier du Mali. Moi, personnellement, j'ai passé plus de 8 mois, chaque semaine, le vendredi, j'avais des débats de 2 heures où j'appelais chaque fois notre ancien métropole d'essayer de changer son attitude condescendante.
Vous voulez dire Paris, l'ancienne métropole?
Oui.
C'est l'ancienne puissance colonisatrice du Mali et de beaucoup de pays africains.
De pays africains, et pas seulement colonisatrice, mais maltraitante et avec des attitudes vraiment inhumaines. Mm-hmm. Il faut appeler les chiens par son nom. Donc, comme on dit chez nous, c'est un adage. Donc, toutes ces malversations, toutes ces diffamations, toutes ces velléités malsaines à l'endroit de mon pays, je répète encore, ne nous dissuaderont en rien. On est décidé. Nous aussi, nous voulons vivre. On a tout pour ça. C'est ça le mal. C'est là ça blesse. Aujourd'hui, je suis en Russie. Je me promène à Moscou. Je me rappelle quand j'étudiais ici dans les années 80 et ce qui est là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Même à côté, en Algérie, au temps de Ben Bella, mon pays, comme Bouteflika le disait, a tout fait. On a chassé les Français là-bas. 3 semaines après, on a installé Bouteflika à Gao. Nos pilotes ont participé à la guerre d'Algérie, parce que c'est des amis. Ils ont versé du sang. Mais aujourd'hui, le résultat se voit. Parce que toute liberté a un prix. Tout pays qui refuse de payer ses prix, tu es condamné à être esclave. Tu es condamné à être victime. Il n'y a pas de pitié dans la géopolitique. Heureusement, mon peuple a commencé à comprendre ça. D'où la situation qui prévaut aujourd'hui. Et qu'est-ce qui prévaut? Malgré les sanctions inhumaines, mon gouvernement a tenu. D'ailleurs, nous tenons mieux que nos voisins qui n'ont pas de sanctions. Je vous invite à aller investiguer. Vous allez voir que la vie est moins chère chez moi que dans les pays, petits pays voisins là, soumis à l'Occident jusqu'à présent, à travers lesquels ces diversions se passent, ces complots se fabriquent, se fomentent. Mais je suis sûr que bientôt, leur tour va arriver. Très bientôt. Parce que contrairement à eux, leur population envie le Mali aujourd'hui. Ils veulent faire comme le Mali. Ils veulent qu'ils fassent comme le Mali. Mais comme déjà, ils ont des contrats avec l'ex-métropole, pour nous l'ex, mais pour eux jusqu'à présent, leurs propriétaires d'esclaves, parce qu'il faut, il faut appeler les choses comme ça y est. Et je dis que leur tour va arriver très bientôt. Parce que c'est les gens, ces propriétaires d'esclaves, qui n'ont pas, qui ne badinent pas, qui n'ont pas parfois de morale, qui n'ont pas d'honnêteté, ils ne voient que leur intérêt, et seulement leur intérêt. C'est ça notre problème avec eux. Sinon, notre politique, que ce soit intérieur, que ce soit à l'extérieur, ça n'est dressé contre personne. Mmh. Comme mon ami, mon tuteur disait, Malcolm X, on aime notre peuple au point que les autres pensent qu'on les dédaigne. Mais on n'a pas le temps de les dédaigner parce qu'on a tellement de soucis, tellement de problèmes qu'on n'a pas fini de résoudre d'abord. Parce qu'on nous a fait, tellement fait subir pendant des siècles, pendant l'histoire, qu'aujourd'hui, on est résolu. Ce n'est pas le problème d'Assimi. Ce n'est pas le problème de Sadio, le ministre de la Défense. Ou bien qui d'autre. Mais c'est seulement la politique qui est là aujourd'hui. La population a compris que ces jeunes qui sont venus au pouvoir nous mènent dans une direction qu'on n'avait même pas rêvé. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des Maliens qui pouvaient comprendre et oser. D'ailleurs, c'est mon mot préféré. Les Maliens qui m'écoutent, ils savent bien, j'aime ça. J'ai dit, il faut oser. La politique, c'est de pouvoir oser. On ne peut pas tout connaître à l'avance. Il s'agit d'avoir l'amour, la conviction, l'option, la vision et la décision ferme. Et tout marche. Donc, pour revenir plus concrètement à vos questions, si vous prenez sur le plan sécuritaire, il y a certains qui ont été, l'aménagement est là déjà 10 ans, l'ancienne métropole était là 10 ans.
La France, l'ancienne métropole. Ouais.
Donc, chaque fois quand, d'année en année, on allait de mal à pire. Au début, la guerre, c'était seulement le Nord. Finalement, avant qu'on les chasse, ou bien avant qu'ils se sont fait chasser, parce que c'est eux-mêmes qui ont signé un accord illégal, soi-disant imposé, et sur nous en 2014, l'accord de défense, dans le cadre duquel, quand ils devaient prendre des décisions telles qu'ils ont eu à prendre, ils devaient nous avertir, mais parce qu'il y a eu des changements dans notre pays, ce qu'on appelle pas coup d'État, mais correction. Parce qu'en réalité, au Mali, le mot coup d'État ne correspond pas si vous prenez dans le sens étymologique. Un coup d'État, c'est comme vous et moi, en tant que militaire ou bien n'importe qui, nous venons par force, nous enlevons le pouvoir par des moyens illégaux. Mais là, comme eux-mêmes ils prônent les Occidentaux, que tout doit se gérer dans le cadre de la démocratie étant le pouvoir du peuple, c'est le peuple malien qui s'est levé pendant 3 mois et il a dit « Niet, à la politique.
Et dans ce but, dans cette voie-là, M. Diabaté, oui. Donc la transition politique a été lancée par Assimi Goïta et ses collaborateurs. Oui. Alors, on est où actuellement? Est-ce que les élections s'approchent? Oui. Elles seront tenues à la date fixée auparavant?
Ces histoires des dates, messieurs, c'est ce que je voulais vous faire savoir. La démocratie étant le pouvoir et la volonté du peuple, aujourd'hui, notre premier souci, ce n'est pas les élections. Mm-hmm. Je vais être clair avec vous. Notre premier souci, c'est la sécurité d'abord.
Effectivement. Sans la sécurité, il ne peut pas y avoir d'élections.
Sans la sécurité, quelle démocratie? Non. Et ceux qui crient à la démocratie, là, ou bien aux élections, ils ont fait 10 ans là-bas, tout le pays était envahi. D'ailleurs, leur but, ce n'était pas de libérer notre pays, c'était d'envahir notre pays. Et c'est eux, il faut appeler les choses par le nom, c'est eux les envahisseurs de notre pays. Ceux qui sont venus la soi-disant pour nous défendre, et je l'ai toujours dit, et ce n'est même plus caché. D'ailleurs, ça fait 3 mois, on a notre demande aux Nations Unies. Donnez-nous la tribune. On a plus de 77 preuves, en vidéo, en n'importe quel matériel, qu'on va vous étaler pour prouver que la France est là. Ce n'est pas pour nous dire, mais c'est elle-même qui a la base de tout ce qui se passe au Mali, depuis au début. Mais on y refuse. Mm-hmm. Si tu n'as rien à te reprocher, quel est le problème? Laissez-nous sortir, exposer nos preuves, et vous venez vous montrer que nous mentons. C'est simple. Vous allez vous acquitter devant la communauté internationale. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'ils savent très bien que nous, on a ces preuves. Et ils le savent. Et ceux qui les protègent, ils le savent. Donc aujourd'hui, nous vivons une étape dans la vie de notre pays qu'on n'avait jamais rêvée. Et tellement on voit déjà la lumière au bout du tunnel que rien ne peut nous dissuader de cette voie encore. Impossible. Mm-hmm. Impossible. Ce n'est même plus Assimi, ce n'est même plus Sadio Camara, le ministre de la Défense. D'ailleurs, que je profite pour saluer avec notre président, parce que c'est ces jeunes-là qui ont amené ceux dont nous nous glorifions aujourd'hui. Malgré que ce sont nos petits frères. Pratiquement, on peut dire nos enfants. Mais ils ont osé, ils ont compris mieux que leur père. Et je veux que l'humanité entière comprenne qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 95% du Malien qui s'appelle aujourd'hui Assimi, qui s'appelle aujourd'hui Sadio Camara.
D'accord. C'est clair, M. Diabaté. Pour donc conclure un peu sur le Mali, où est-ce qu'on est la coopération sécuritaire et militaire, technico-militaire entre le Mali et la Russie? Est-ce que je peux comprendre de ce que vous dites que depuis que cette coopération a été lancée, l'armée malienne prend de plus en plus de puissance et assoit de plus en plus sa domination sur tout le territoire national?
Absolument, monsieur. Pour confirmer vos mots, je vais vérifier encore avant-hier, quand j'étais à l'hôtel, j'étais revenu à l'hôtel, qu'il y a une puissance occidentale qui dit qu'elle s'inquiète maintenant de la militarisation exagérée du Mali. J'ai dit, mais arrêtez, ces jeux-là, on comprend. On a étudié dans les mêmes universités et on n'était pas les derniers. Vous comprenez, on est plus complexés. On sait où vous voulez en venir. On n'est même pas, oui, et en un an, nos jeunes ont fait ce que nous n'avons pas pu faire en 60 ans. Mais dire qu'on est surarmé, mais l'Algérie est à côté, les Maroc est à côté, l'Égypte est là. On n'a même pas commencé. Mais par rapport à ce qui était, mais c'est phénoménal, oui, oui. Et sur le plan sécuritaire, mais c'est du rêve ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les terroristes se cachent. Aujourd'hui, s'ils pouvaient venir 300, 400 attaquer tout un village, ils font des petites opérations maintenant de 5, de 10, parce qu'ils n'ont plus le nombre, ils n'ont plus la capacité. Et c'est à cause du fait que les sponsors étrangers, l'argent continue à venir, ils prennent le risque. Mais chaque jour, les terroristes perdent l'espoir au Mali. Et nous sommes confiants à 100%. Je vous dis bien à 100% que très, très bientôt, nous allons sécuriser tout notre territoire national grâce à la coopération, bien sûr avec la Russie, mais grâce à la politique menée par notre ministre de la Défense, depuis longtemps, depuis que les gens ne lui croyaient pas. Il dit, l'autonomie sécuritaire de mon pays, c'est ma priorité. Que mon pays parvienne à assurer sa sécurité de lui-même. Quand il disait ça pour la première fois, rares étaient les quelques gens, comme moi-même, qui savaient de quoi ils parlaient, la grande majorité pensait que c'était un revers. Mais aujourd'hui, c'est un héros national. Et notre président muet, mais très concret, très militaire. C'est-à-dire, il ne parle pas, il fait. Et comme vous le dites bien, le poisson pourrit par la tête. Et voyant que ce qui constitue la tête de notre pouvoir aujourd'hui, ils sont sérieux, tout le reste là sont méconnaissables dans le bon sens du mot. On dirait que c'est une transformation psychologique qui s'est produite, que les gens ne font que s'ébahir devant. Donc c'est pour dire, sur le plan sécuritaire, on va 100 fois mieux que quand la France était là. On fait 100 fois mieux que l'administration n'a jamais été là-bas. D'ailleurs, c'est une force qui, soi-disant, est venue pour assurer notre sécurité, mais qu'on est obligé d'assurer leur sécurité. C'est des protecteurs qui ont besoin de protecteurs. C'est bizarre, des encombrements. Dieu merci que nos dirigeants ont compris ça. Ils ont pris des mesures nécessaires pour que nous puissions venir subvenir à nos besoins sécuritaires. Et Dieu merci aujourd'hui. D'accord. Même leurs ennemis reconnaissent ça. Sur le plan sécuritaire, on dit « Alhamdulillah ». D'accord. Et je sais, très bientôt, les terroristes vont se rendre en totalité, parce qu'aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse totale.
Ben, je vous remercie, M. Diabaté, pour toutes ces informations. Nous ne pouvons qu'espérer aux Maliens de réussir dans l'entreprise, d'autant plus qu'ils ne demandent qu'à être souverains sur leur sol et à avoir le droit, comme vous le dites si bien, comme tout le monde, ni moins ni plus, au développement, à la sécurité, à la souveraineté, à la dignité, à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à l'eau, à l'énergie.
Absolument.
Et tout.
Absolument.
Bien. Maintenant, j'aimerais bien poser cette dynamique qui est extrêmement intéressante, qui se passe actuellement au Mali, dans le contexte régional. Donc, il y a la France qui, entre guillemets, dit... a mis fin à la passe à l'opération Barkhane qui a suivi l'opération Serval, donc c'est à peu près 10 ans, mais tantôt monsieur Macron dit que il met fin, tantôt non, on se retire pas, on va juste réaménager l'opération pour continuer à lutter contre les mouvements terroristes, entre guillemets. Bien. Alors, où en est la sécurité dans la région? Est-ce qu'il y a une coopération entre le Mali et les pays qui l'entourent, comme l'Algérie, par exemple, qui a tout à fait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de résurgence du terrorisme? Comment les choses se passent dans la région des trois frontières? Et est-ce que, c'est vrai, il y a des combattants qui arrivent de Syrie et d'Irak et qui commencent à alimenter le risque d'une résurgence du terrorisme dans cette région et dans tout le Sahel en général?
Merci beaucoup pour la question. Vous avez raison. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui, c'est un phénomène qui est internationalisé, malheureusement. Et il y a beaucoup qui sont intéressés dans ce terrorisme. C'est un système qui est beaucoup plus complexe que la population non initiée ne peut élucider ou bien comprendre. Effectivement, depuis le début de notre conflit, il y a toutes sortes de nationalités. Il y a des ex-Syriens, des Afghans, des Pakistanais, des Yémen, de n'importe où. Même de l'Algérie, des anciens.
Qui frappe toujours
au mauvais moment, au mauvais temps, au mauvais lieu. C'est ça la tactique du
terrorisme. Ironiquement, là où il y a les intérêts
absolument.
Pour faire débarquer les armées étrangères.
Absolument. Parce que, écoutez, il ne faut pas qu'on se cache là. Nous qui avons été tout le temps les victimes là, on n'est pas complexe à le dire. C'est la politique de diviser pour régner, comme disait votre ancien collègue. Et maintenant, analyste, Naomi Klein, elle dit la politique du chaos, la théorie du chaos. C'est ça la géopolitique internationale aujourd'hui. On vient soi-même, on crée les problèmes et on vient comme les sapeurs pyromanes. On vient, on allume le feu, on se porte volontaire pour éteindre ce même feu. Et c'est ce que l'Occident fait chez nous. Et le cas malien ne fait pas exception. La Libye, la même chose. La Syrie, c'est elle-même qui crée ces problèmes chez nous. faut qu'on se le dise. Et c'est eux qui sont à la base de tout ça. Vous n'allez pas me dire quand même qu'avec une bonne volonté, l'Occident a des problèmes de raser cette petite poignée de terroristes au Mali. Non, ça serait entre nous quand même, mes frères. Mais tout homme raisonnable le sait. Quelqu'un est intéressé là-dedans. Les narcotrafiquants sont intéressés. Les grandes puissances sont intéressées. Parce que pourquoi la zone des trois frontières est aussi emblématique? Parce que c'est la région la plus riche dans cette sous-région. Il y a toutes les ressources stratégiques là-bas. Alors que quand c'est stable là, il faut payer. Quand il y a l'ordre, il faut payer. Et c'est quand l'eau est trouble qu'il est facile de pêcher. Et c'est la politique que l'Occident mène chez nous. Voici tout le problème sans diplomatie. Hein. Sans langue de bois. Donc, ayant dit ça maintenant, on peut revenir à votre question. Oui, je veux que tout ce temps-là, ces dernières années-là, j'essaie de sensibiliser mon peuple, de leur expliquer le monde c'est quoi, comment ça fonctionne, et comment ils ne doivent pas dormir, comment ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en un coup. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai balayé ma cour, et puis c'est fini, je ne balaye plus. Non, tu as balayé le matin, il faut balayer la journée, il faut balayer le soir, et demain tu reprends la même chose, et tu fais ça jusqu'au jour où tu ne seras pas là. C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est une guerre continuelle. Surtout qu'aujourd'hui, toute l'humanité était sous domination d'une petite poignée qui est l'Occident. Aujourd'hui, ceux-là même, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Mexique, je peux continuer la liste, qui étaient sous leur domination, et ils leur font la concurrence aujourd'hui. Donc, le seul espace qui reste encore comme une proie facile, c'est nous les Africains. Surtout les Africains noirs du Sud, il faut le dire, sans autre idée là-dedans. Et c'est là-bas maintenant qu'il faut tout faire pour que cela ne les échappe pas.
D'accord, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Je vous retrouve, Monsieur Adama Diabaté, mesdames et messieurs, nos chers auditeurs, dans quelques instants, après une toute petite pause musicale.
Merci.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Adama Diabaté, géopolitologue malien. Monsieur Diabaté, je vous salue et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci.
Et qui sera maintenant consacré aux questions géopolitiques et économiques. Actuellement, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, donc le monde qui a commencé certainement à changer depuis quand même plusieurs années, mais ce changement commence à s'accélérer, c'est beaucoup accéléré vers un monde multipolaire. Donc, un monde multipolaire qui, bien sûr, comme vous le dites si bien, il faut se battre pour que ce soit un monde juste qui va servir les intérêts de tous. Alors, comment voyez-vous la position de l'Afrique dans ce nouveau monde? Et est-ce que vous pensez que ce nouveau monde peut être, comme l'organisation des BRICS, une chance pour que les Africains puissent s'émanciper d'abord et puis se développer?
Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, je suis d'accord avec vous que ce monde doit est une chance pour l'Afrique. Mais la chance, il faut l'utiliser aussi. C'est ce que je dirais aux Africains. Même si elle est là, il faut l'utiliser à ses fins. Oui, l'Afrique se réveille, comme je l'ai dit. Mais je vais encore à un rythme plus accéléré que ça y est maintenant. Surtout au niveau de la pression populaire sur les dirigeants qui sont habitués à attendre des ordres de l'Occident, surtout de la France. Ce qui ne concerne pas seulement les pays francophones, parce que n'oubliez pas qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une convention non écrite ou écrite, je ne sais pas, à l'Occident, entre les États-Unis et la France, par exemple, qu'elle pouvait faire en Afrique tout ce qui lui plaisait. L'essentiel était d'empêcher les riches de s'installer. D'où la participation de la France à la guerre de Biafra. Bien que ce soit un pays anglophone, la France était devenue le maître absolu de l'Afrique, malheureusement. Et heureusement pour nous que maintenant les Africains ont commencé à avoir ça. Donc, je dis très souvent quand on me demande, j'ai inventé ce truc, je dis que La situation géopolitique que nous vivons maintenant, je peux la résumer en une phrase. Je dis, c'est la fin de la civilisation et le début des civilisations. La fin de la civilisation et le début des civilisations.
On pourrait dire aussi la fin de la fin de la civilisation.
Merci.
Pour amener une négation à la thèse de Francis Fukuyama qui a prédit la fin de l'histoire.
Mais absolument. Merci pour votre rappel. Et il était un peu trop pressé. Il a voulu faire de sa volonté une vérité. Malheureusement, l'analyse n'était pas tellement profonde. C'était comme condamner le reste du monde à ce que je ne sais même pas. Mais comme c'est un Japonais, il ne peut pas connaître les réalités africaines ou bien des pays qui étaient victimes, qui payaient pour cette opulence exagérée, exubérante de l'Occident. Nous. Par exemple, je pose chaque fois la question aux gens. Comment se peut-il que la France ait 4e réserve d'or alors qu'ils ne produisent pas un kilo d'or? Tout le monde le sait, c'est le Mali qui est deuxième producteur, deuxième pas premier, parce qu'on dit troisième producteur, mais en même temps, clandestinement, hors du contrôle de l'État, nous exportons, nous produisons trois fois plus que l'État déclare officiellement. Mmh. Et tout ça là, ça va où? À omettre. Nous, on était plus dépendants pendant la soi-disant indépendance qu'avant l'indépendance, malheureusement. Avec le franc CFA, avec ce vol.
Justement, comme vous estimez, en tant que géopolitologue, que donc ce nouvel ordre multipolaire est une chance, notamment avec les BRICS, qui vont, ce mois d'août, discuter l'idée d'une monnaie commune. Commune, pas unique.
Oui.
Commune pour les échanges.
Absolument.
Donc, pour justement, parce que l'économie, c'est le levier essentiel, et non particulier financier,
oui,
avec lequel le néocolonialisme se perpétue depuis
absolument,
les indépendances.
Absolument.
Et donc, justement, je voulais vous poser cette question qui est très importante à mon sens. À ce jour, donc, étant donné que les pays de la zone franc CFA sont encore obligés de déposer 50% de leurs avoirs dans un compte en France, contre lequel ils reçoivent les francs CFA, donc...
du papier.
Du papier,
c'est même pas
pour
de
ne pas dire autre chose. Restant poli, pour ne pas dire autre chose, imprimé donc par la Banque de France, peut-on vraiment parler d'aide au développement dont se gargarisent ces pays occidentaux, notamment la France,
oui.
Puis, étant donné que c'est toujours la France qui est la garante en dernier ressort du franc CFA, comment ces pays qui sont membres de cette zone, pourraient-ils se développer alors qu'ils n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie?
Absolument. Vous avez tout dit. Hein? Un pays sans monnaie, tu blagues avec la souveraineté. Tu ne peux pas avoir la souveraineté. C'est comme un mort qui est là et il y a un charlatan qui vous promet qu'il va vous faire résurrecter. Non, il faut être un bébé pour y croire parce qu'il n'y a jamais eu de cas comme ça et ça, il n'y en aura pas. Et la souveraineté, c'est la capacité militaire d'assurer ton territoire, et avoir la souveraineté financière, comme vous avez dit, un État bien conçu, et tout le reste s'ajoute à ça. Comme le Rockefeller, le vieux, disait, non, le grand-père, il dit, quand je viens dans un pays là, je n'ai pas besoin du poste de roi ou de président, donne-moi sa finance, et le roi va venir s'agenouiller devant moi. Donc, quelqu'un qui contrôle sa finance à la manière de la France, n'oubliez pas que la France est le seul pays qui pratique de telles arnaques économiques au monde, encore. C'est du vol. Si ce n'était pas que c'était nous, les Africains, les victimes, ça aurait été d'autres ethnies, d'autres races. Oui, je ne me gêne pas à le dire. Il ne faut pas se gêner à dire. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est flagrant, mais on dit à cause des politiques correctes, non, il ne faut pas... Non, excusez-moi. C'est nous qui en souffrons. On en a marre. On se courbe sous cette charge. Et le fait seulement de le rappeler, les malfaiteurs sont mal à l'aise. Ils disent non, ce n'est pas poli. Qu'est-ce qui n'est pas poli? Ce que vous avez fait, dire ce que vous avez fait de mal, ou bien c'est pourquoi on devait vous condamner à vie. On ne vous condamne pas. Mais le fait de rappeler ça, c'est ce qui est condamnable. Mais vous blaguez, vous nous méprisez, vous ne respectez pas. Donc, le but final, c'est quoi? C'est de sortir de ce franc CFA. Obligatoirement. Quoi qu'on fasse, à la finale, si on ne sort pas, tout le reste là. C'est comme si sous la pluie. Ça ne sert à rien. On ne pourra pas faire la différence entre la sueur et la pluie. Donc, ça revient à la même chose ici. Donc, à la fin, nous voulons nous approprier de nos ressources d'abord. Que ce soit nous qui décidons de ce que nous allons faire avec nos ressources et non que ce soit la France. D'ailleurs, c'est les trois critères que notre président a élaborés, que le terme générique aujourd'hui de notre diplomatie et de tout le reste de l'officiel chez nous. On veut trois choses. Et tout pays qui veut traiter avec nous, qui veut collaborer avec nous, tu suis ça. C'est dans toutes nos décisions. Et rien ne doit aller contre la souveraineté de notre pays. Toute décision qu'on prend doit correspondre aux intérêts de notre peuple et personne ne doit nous dicter notre choix de partenariat. Tu traites avec la Russie, tu es mauvais. Non. Toi là, tu vas pas nous dire si on a besoin de traiter avec le diable et que ça sert nos affaires, on va le faire. Et toi aussi, si tu veux, parce que nous n'allons pas chercher les yeux chez vous. C'est vous qui venez chercher chez nous. Et vous ne nous nourrez pas. D'ailleurs, vous avez bien fait. Vous avez fait allusion à ça. Vous dites que cette question de coopération, d'aide au développement, mais c'est de la rigolade. C'est nous qui aidons la France. C'est nous qui finançons la France. Justement, c'est nous qui faisons que la France ait une place aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est nous qui faisons aujourd'hui que la France est considérée parmi les grandes nations. Sinon, elle ne vaut rien, elle ne s'appelle nullement, elle ne vient de nulle part.
Justement, sur cette question des aides au développement, il y a des experts africains qui l'ont pas mal étudié et qui dénoncent le fait que les réserves, que ce sont les réserves, les 50% de leurs réserves de change qui sont déposées donc en France, qui sont utilisées par la Banque de France dans des comptes rémunérés avec des intérêts. Et c'est avec ces intérêts-là que la France finance l'aide au développement en Afrique et voire endette les pays africains, membres de la France.
Et endette plutôt, avec notre propre argent. C'est du sarcasme. C'est le moins que je puisse dire parce que je suis en air. Il y a certains termes qui ne sont pas permis. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque ce que la France fait. Vous parlez des 50%. Elle est de 50%. Pourquoi vous ne dites pas comment ils sont utilisés? C'est à 100% en réalité. À 100%. C'est comme quelqu'un qui gagne 1000 francs. Je viens, vous me dites, docteur, vous me donnez vos 1000 francs que vous gagnez par an. J'ai dit, à quel titre? Sûrement, je suis plus fort que toi. J'ai pu t'imposer. OK, je vous ai donné les 1000 francs. Après, je reviens. J'ai dit, je vais prendre en crédit mon argent que vous gardez là-bas. Vous me dites, vous pouvez prendre jusqu'à 15% de cet argent qui vous appartient, à 100%, qui doit vous appartenir. Mais en réalité, que je suis obligé de vous donner. Et là, pour avoir 15% de mon argent que vous m'avez pris de force, volontairement, mais de force, vous me dites encore, amenez-moi des rapports de faisabilité ou des documents justifiant que vous méritez que je vous donne 15% de votre argent. Et si ça ne me plaît pas sans justification, je peux vous refuser. Et après cet argent-là, je suis obligé de vous rembourser avec des pourcentages. Mais l'humanité regarde où? Et avec tout ça, on nous parle de démocratie, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de... Mais les autres, vous vous moquez de qui? Et Dieu merci, l'humanité s'est réveillée. Dieu merci, aujourd'hui, il y a de l'alternative. Pour ceux qui pensent que, encore, on peut faire revenir le monde à l'état qui était, ça, c'est l'heure qui se réveille. Le monde ne sera plus jamais comme ça a été.
Justement,
c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident et c'est un phénomène. Le cas ukrainien n'est qu'un épisode.
Absolument.
Ça n'a rien à voir avec ce phénomène. C'est un phénomène irréversible, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie occidentale. Le monde pluripolaire, c'est le monde qui fait du bien à tous. Et malheur à ceux de ces pays qui ne vont pas comprendre ça et qui ne vont pas se réveiller à temps, qui ne vont pas faire chemin avec ceux qui sont sur la droiture humaine, ceux qui sont pour la pluralité, ceux qui sont pour la science pour tous. Et ceci, c'est le BRICS. Et à la tête de tout ça aujourd'hui, c'est la Russie. Très souvent, je dis, même avec les officiels, tous ces touristes, je dis, aujourd'hui, on est content de vous. Aujourd'hui, on vous côtoie. Pas parce que vous êtes beau, hein. Pas par amour ou comme ça, hein. Parce que par amour pour votre politique que vous menez aujourd'hui. Et on vous doit. Et je dis ouvertement aujourd'hui que la Russie se bat pour toute l'humanité et prix de volonté de souveraineté, d'indépendance ou bien du sens minimum d'humanité. On en supplie. On ne supplie pas sa liberté, mon frère. On combat pour sa liberté. C'est ce que je veux que les Africains comprennent. C'est ce que je veux que les autres peuples soumis, opprimés, comprennent. La liberté s'achète, ça se paye.
D'accord. De ce point de vue, justement, pour terminer sur cette question-là de la monnaie et de la souveraineté sur la monnaie, l'opération spéciale russe, au-delà de son aspect géostratégique et militaire, elle a quand même dévoilé quelque chose de très important, que l'énergie, le monde entier, y compris les Occidentaux, sur le plan de l'énergie, dépendent de la Russie et d'autres pays. Et pas uniquement l'énergie, mais même la nourriture et les engrais pour faire de l'agriculture et dépendent de la Russie. Donc en réalité, la domination est juste assise sur du papier. Le fait qu'ils dominent le papier, ils impriment le papier et puis ils achètent avec ça partout. Mais alors pour l'Afrique, il y a une chose qui est très importante. Après le début de l'opération spéciale, le fait que la Russie a exigé le paiement suite aux sanctions occidentales de son pétrole et de ses matières, certaines matières, de l'énergie et du blé en rouble, cela a fait du rouble la monnaie la plus solide dans le monde. Alors, je vous pose la question. Les Africains, qui ont les plus grandes ressources du monde, en particulier en matière stratégique, très importante pour les énergies, pour les technologies de haute dans le monde, intensité dans le monde. Oui. Pourquoi est-ce que cela ne serait pas justement un exemple à suivre, un moyen pour avoir sa souveraineté monétaire et adosser des monnaies nationales à leur matière première?
Excellente question. Mais il y a un mais là, un gros mais. C'est ce que je dis. La chance est là, il faut la réaliser. C'est-à-dire, il faut s'assumer, il faut oser. Aujourd'hui, si vous prenez les 7 premières matières stratégiques du monde, l'Afrique est la première dans tous les domaines. Je dis l'Afrique en général. Il y a certains où un seul jaïr, par exemple en coltan, ils font 70%, sinon même plus. Un seul pays. Mais c'est l'un des pays où vous avez le plus bas salaire. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique. C'est ça le mot. Si ce n'est pas la Russie, ça doit être le pays le plus riche en mètres carrés de sous-sol en richesse. Mais allez là-bas, vous n'allez rien voir de comparable à ces estimations, à ces statistiques. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord nous défaire de cette chaîne. Parce que l'Occident, c'est les professionnels, c'est des focus, comme les Russes disent. C'est les professionnels du focus. On crée des écrans, on distrait l'attention, pendant que l'autre côté, la droite que vous ne suivez pas, c'est là-bas les vraies choses se passent. La politique occidentale, ça se résume à ça. Et comme vous l'avez dit, tant qu'ils ont l'imprimante en main, vous avez beau être riche, mais ils seront plus riches que vous. Parce que vous, vous produisez de votre sueur, vous investissez dans la production, et quand lui, il a besoin d'acheter ce qu'il a produit des années, il a besoin d'allumer l'imprimante. C'est ça, si on globalise l'économie mondiale. C'est de l'arnaque. L'autre, il imprime, toi, tu produis. Le papier, c'est toujours en abondance. Tant qu'il y a l'électricité, ça va faire du papier. Mais toi, là, pour produire ce que tu vends, là, c'est ça, la matière réelle. D'ailleurs, c'est ça le problème de l'Occident aujourd'hui. Parce que la politique que mène la Russie aujourd'hui et les autres pays du BRICS, ça va amener à faire que l'économie, tu vas valoir ce que tu as. Ce ne sera pas comme le cas de la France aujourd'hui. Un des pays les plus pauvres du monde, mais qui est parmi les premières puissances du monde, au dépend de nous, les Africains. Ils contrôlent notre monnaie, ils contrôlent notre vie, ils contrôlent notre sous-sol, ils contrôlent toute notre vie. C'est ça notre problème. Sinon, on n'a rien contre la France. On n'a même pas le temps d'être contre quelqu'un. Parce qu'on a tellement à faire encore. Mais on ne permettra plus à quiconque que ce soit de venir nous imposer sa volonté chez nous. Oui, on sait qu'ils sont plus forts que nous. Mais d'ailleurs, il y a encore ceux, comme la Russie aujourd'hui, qui en ont marre de cette politique. D'ailleurs, j'ai dit aux autorités russes aujourd'hui, on s'entraide. Ce n'est pas seulement vous qui allez nous aider. Hein. Parce que si vous ne venez pas nous aider chez nous, ceux-là qui vous font la guerre ici, quand ils s'épuisent là, ils vont se charger en énergie chez nous. Tant que l'énergie est accessible chez eux, j'ai analysé nos ressources, nos richesses, nos monnaies, ils ont tous les moyens de vous créer des problèmes ici. C'est ça. Donc, ce n'est pas une politique contre quelqu'un, c'est une politique pour nous. Et je crois qu'en vrai humaniste, comme il prétend l'Occident, parce que c'est le premier défenseur des droits de l'homme, ce qui me fait rire, ce qui me crée des insomnies, parce qu'avec leur histoire, pourquoi jusqu'à présent, ce n'est pas le thème que vous avez posé, mais je vais en profiter. Jusqu'à présent, nous sommes la seule race à qui on refuse de présenter ses excuses, alors que depuis l'humanité a existé, c'est contre nous qu'a été commis le crime le plus imprescriptible de l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Mais on se gêne même de nous présenter les excuses, parce qu'on ne vaut pas une excuse. Les Juifs ont eu leurs excuses, ils ont eu leur compensation. Pourquoi on ne m'a pas les dit?
Et pourtant, l'Afrique a beaucoup donné pour la civilisation humaine. Il y a des études qui montrent que des périodes aussi longues que des siècles, la civilisation égyptienne, la civilisation égyptienne était, de, était une civilisation négrière. Et donc, de ce point de vue, le Mali, il a quand même une histoire millénaire qui a donné beaucoup à l'histoire de l'humanité.
Parce
que vous évoquez quand même un point qui est extrêmement important. La situation, dans la situation actuelle, avec la crise financière, économique, qui a été engendrée après le lancement de l'opération spéciale russe, on voit que les Occidentaux, ils se divisent entre eux. Donc, il y a les pays européens comme l'Allemagne et donc, qui payent le prix. Et nous voyons que les Américains ne s'encombrent d'aucune gêne pour piller l'Allemagne ou pour la détruire. Donc là, il s'agit de l'Allemagne. Que dire des pays africains, qui subissent le néocolonialisme depuis les années de l'indépendance. Alors, de ce point de vue, comment vous voyez la coopération entre les pays africains donc, et la Russie, et pour encore aller plus loin, avec la Chine, l'Inde et d'autres pays. Par exemple, la région du Sahel, c'est une région où il manque beaucoup d'eau. Comment on peut faire pour produire de l'eau en faisant du dessalement de l'eau de mer, en acheminant de l'eau des côtes vers le centre du continent? Comment développer des infrastructures, des transports rapides, des écoles, des universités, de la recherche, du développement, et ainsi de suite?
Merci beaucoup pour votre question. Et il s'agit de la diversification des partenariats. C'est qu'on nous a toujours empêchés parce qu'ils ont peur de la compétition. C'est pour cela aujourd'hui, les Occidentaux crient, il faut se méfier des Chinois, il faut se méfier des... Oui, chacun a ses défaillances. On va gérer chacun avec ses défaillances. On n'est pas Dieu. Hein. C'est le seul Dieu qui est parfait. Tout le reste est imparfait. Il faut traiter avec tout chacun, avec ses perfections et ses imperfections. Mais ces imparfaits-là, ils valent 10 fois mieux que eux qui crient. Parce que 500 ans, j'ai dit déjà, on est en mariage avec vous, on n'a jamais dit un jour Alhamdoulilah. Mais laissez-nous tenter maintenant avec d'autres. Et vous voulez nous empêcher? Là, on ne va pas se comprendre. La multiplication, la diversification des partenariats, on prend ça comme notre premier droit de l'homme. D'ailleurs, droit de l'homme, qu'est-ce que l'Occidental peut me parler des droits de l'homme? Quand il y a eu la charte de Kourkanfoua en 1235, d'ailleurs qui est allé plus loin, en 1235, que même la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis diplômé de formation, je suis spécialisé dans l'institution de Bretton Woods. Je sais de quoi je parle. Ils se moquent de qui? Toujours l'écran de fumée? Non, on n'est plus aveugle. On n'est plus enfermé ici. Ce n'est pas des questions. C'est des questions qu'on utilise pour instrumentaliser, pour avoir ses fins. Pour avoir ses fins, cachées ou non cachées. Maintenant, le cas dont vous évoquez avec la crise aujourd'hui en Europe, mais c'était la politique à laquelle on s'attendait. Parce qu'avec les Nord Stream 1 et 2 déjà, c'était foutu pour les interoccidents américains en Occident. Une Europe sans la Russie ne sera jamais une puissance. Je vous le dis aujourd'hui en tant que géopolitologue. Never ever. Hypothétiquement, c'est impossible. Les États-Unis voyant que, avec les Nord Stream 1 et 2 déjà, l'Allemagne aura son indépendance énergétique. La seule chose qui leur manque aujourd'hui pour faire tête aux États-Unis et pour faire élever même toute l'Europe. Aujourd'hui, ils ont créé ces problèmes. Ils paient les gaz aujourd'hui 3 fois plus cher que les gaz russes à travers des intermédiaires ou ces mêmes États-Unis. Van der Leyen parle moins que 2 semaines et dit que non, les États-Unis les ont... Il n'a pas dit directement comme ça, pratiquement arnaqué, parce que non seulement il ne les fournit pas suffisamment, il les fournit à des prix exorbitants qu'il ne peut pas se permettre. J'ai dit, mais vous n'êtes pas des enfants, vous devriez avoir calculé ça avant de vous engager. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez rendu votre sécurité aux États-Unis, et ils en font de vous ce qu'ils veulent. Les États-Unis comprennent très bien qu'une Europe qui s'entend avec la Russie, mais elle n'a pas besoin des États-Unis. La Russie peut leur donner plus que les États-Unis.
Justement, l'impact, est-ce que ça, justement, aide à éveiller les Africains?
Absolument.
Sur la question que leur souveraineté et leur liberté, c'est à eux de l'arracher et d'imposer un partenariat multilatéral au profit, à leur profit, mais gagnant-gagnant avec tout le monde.
Absolument. Mais je vais vous dire encore, chaque fois quand je suis en Russie, je reviens tellement chargé d'énergie, de courage, d'engagement, d'abnégation pour mon pays, mon peuple, ma race, mon continent, finalement. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que c'est un peuple qui a toujours combattu ce qu'il a. Comme notre voisin, les Algériens, là-bas. Je donne chaque fois des exemples. Les pays, même Kadhafi dans les temps, quand on lui avait demandé, mais pourquoi vous avez choisi particulièrement le Cameroun pour installer le commandement intégré des Dikino ? Un pays, qu'il gagne ou pas, qui a combattu pour son indépendance, et un pays à qui l'indépendance a été donnée alors qu'elle ne se donne jamais, ça c'est de l'heure. C'est le comportement à l'endroit de cette indépendance-là n'est pas la même chose. C'est pourquoi, s'il faut installer un tel commandement militaire, il faut dans un pays qui connaît la valeur de son indépendance, c'est-à-dire qui s'est battu pour son indépendance. L'indépendance ne se donne pas. Ça ne s'octroie pas, ça s'assume, ça s'acquiert par le sang. Il faut payer. De la même chose avec cette histoire de guerre, soi-disant. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui a été préparé. Merkel, elle a eu un lapsus, ce n'est pas un lapsus, elle a tout dit. Que les accords de Minsk.
François c'était... Hollande aussi.
Oui, François Hollande. Parce que c'est des. Vous savez, ils se comportent comme des gosses de rue, excuse-moi. Avec tout le respect que j'ai avec eux. Non, avec tout le respect que j'ai avec eux, pourquoi ? Parce que c'est des choses qui ne sont pas sérieuses. Si je vois que ça, c'est le pays de Gaulle, oui, il y a plein de choses que je n'apprécie pas chez lui qu'il a fait avec mon pays, mais malgré tout, il doit avoir le minimum de sérieux dans ce que vous faites à un tel niveau. Surtout un pays dont vous connaissez l'histoire, qui vaut la Russie, elle ne veut pas se donner. Elle a 150 millions de population, et un territoire, combien de fois Napoléon est venu ici ? L'histoire, vous ne connaissez pas ? Hitler est venu. Vous ne connaissez pas l'histoire ? Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Donc, quand j'ai vu ces scènes, j'ai dit que non, l'histoire n'enseigne pas à certains. L'histoire n'enseigne pas à certains. Et cette guerre, en réalité, ça a été bienfaisant. Je m'excuse, hein, j'ai de la pitié pour ceux qui ont perdu la vie là-dedans. Et mes condoléances aux proches et tout. Mais je vous dis que ça va faire des leçons pour la géopolitique en général.
D'accord.
Pour l'humanité en particulier. Et je sais qu'après cette guerre, le monde va aller dans la direction que nous tous nous souhaitons, c'est-à-dire dans la direction de la multipolarité.
D'accord. Alors, une dernière question, M. Diabaté. Le fin juillet de cette année, il y aura le sommet Russie-Afrique. Donc, je pense peut-être que vous serez présent à ce sommet.
J'espère.
Et à votre avis, quelles seraient les attentes des pays africains, d'abord de votre pays, et des pays africains en général, de ce sommet ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà dans les tuyaux concernant, par exemple, la coopération dans l'agriculture, la coopération dans la production peut-être des engrais, j'en sais. Qu'est-ce que j'en sais ? Pourquoi pas le nucléaire civil pour l'électricité et l'eau, les transports rapides ? Pourquoi pas la technologie spatiale, déjà le Roscosmos a des accords de coopération déjà dans au moins 15 pays de pays africains.
Merci pour la question. Moi, je pense que le sommet prochain de Sochi, où il y a de Saint-Pétersbourg, je ne me rappelle pas exactement, ça doit être
oui, Saint-Pétersbourg.
Ouais. C'est ça, Saint-Pétersbourg. C'est le sommet de toutes les attentes pour les Africains. En particulier mon pays. Et je sais que les attentes seront satisfaites parce que déjà à ce niveau, on a beaucoup, beaucoup de programmes avec la Russie et dont on est en train de travailler là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup disent chez nous, ils disent que non, la Russie, surtout notre voisin ivoirien, la Russie est la 11e puissance, blablabla, blablabla. Les gens viennent chez moi, ils me posent la question, je dis que bon, parfois j'ai la paresse de répondre à ces gens-là. Ils veulent faire croire aux gens ce à quoi. Ce qui arrange leur intérêt, c'est tout. Ce n'est pas des experts qui méritent ma réponse. En réalité, au sommet de Saint-Pétersbourg, il y aura tous les domaines absolument qui rentrent dans la vie sociale. Commençons par la sécurité, la coopération militaire, la coopération économique, financière, dans l'agriculture, tout. Ces programmes sont tracés. Il y a nombre de commissions qui sont en train de travailler sur la faisabilité de tel programme. Et on plane les approfondir le plus vite et le plus profondément possible. et j'en suis sûr que ça va aboutir. D'ailleurs, c'est des relations gagnant-gagnantes et qui vont nous faire plus de bien que ceux auxquels nos anciennes métropoles nous avaient habitués. Parce qu'en ce moment, c'était de l'arnaque à tous les niveaux. C'est pas parce que je vais... Pour quelqu'un qui a étudié nos relations avec ses anciens, c'est si tu rates le mot arnaque, c'est tu t'es gêné. C'est par ce mot seulement que tu peux exprimer exactement c'est à quoi ça ressemble nos relations avec ceci. Donc, c'est le sommet Saint-Pétersbourg, c'est le sommet de toutes les attentes pour les Africains. Et je suis sûr que ce sera le sommet le plus réussi de tous ces différents sommets. Afrique-Chine, Afrique-ceci, Afrique-cela. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, la Russie crée, contrairement à ce que l'Occident dit, que la Russie est en train de mener des politiques anti-occidentales. La Russie, contrairement, elle ne fait rien là-bas d'abord. C'est ce que je reproche aux Russes, d'être plus actifs. Ils ne font plus rien. Mais seulement, c'est leur conduite qui attraigne les Africains et les autres, pas seulement les Africains, les autres peuples épris de souveraineté, de liberté. Ils ont compris maintenant qu'il y a un pays puissant qui est là, qui au lieu de sucer le sang, au lieu de maltraiter à leur profit, est en train de créer de l'opportunité pour que tous puissent s'épanouir dans la liberté et le respect mutuel. C'est ce qui fait l'amour pour la Russie. Je dis pratiquement l'amour même. Parce qu'il crée un espoir auquel on ne s'attendait pas. Donc, mon appel à l'Occident, au lieu de se faire un ennemi, la Russie, ou bien nous, vos ennemis, essayez de voir ce qui plaît aux clients, nous les clients. Ce qui plaît, c'est la politique pareille à celle de la Russie. Mais répétez, pourquoi inventer le vélo? Parce que depuis 100 ans, vous nous exploitez des forces, vous ne voulez pas changer cette attitude, alors que ça ne va plus marcher. S'il y a une autre grande puissance déjà qui fait quelque chose qui nous plaît, mais copiez chez lui. On a déjà des vieux parents. Et tout va bien aller. Faites seulement ce que la Russie fait. Venez, coopérez avec nous dans des conditions gagnant-gagnantes, et tout sera parfait. On n'a pas d'animosité à l'endroit de qui que ce soit. Non. Mais on va plus se laisser faire. Non. L'Afrique, le 21e siècle ne doit pas être l'Afrique de la Chine, comme les gens disent. Mais le siècle de la Chine, mais le siècle de l'Afrique. Parce qu'elle a ses usines, mais sans nos ressources, ces usines ne seront pas alimentées. Nous, on peut vivre sans ces produits-là, hein, en Afrique, là. On n'a pas beaucoup de besoins. En Afrique, on peut vivre. D'ailleurs, j'ai dit que l'une des raisons...
Justement, la question, après la question de la souveraineté monétaire et financière, oui. Si les Africains ne se décident pas, justement, à s'imposer, je dis bien à s'imposer, la transformation de leurs matières premières localement, oui. Et n'exporter que ce qui est en excès à l'extérieur.
Absolument.
Et ils ne pourront jamais s'en sortir.
Mais c'est simple, vous venez de dire en une phrase tout ce qu'on a besoin pour nous développer, pour ne pas créer la compétition, mais pour dominer ce qui nous domine aujourd'hui, littéralement. Parce qu'ils n'ont rien. Ils veulent que c'est notre esclave, notre état d'esprit. Ils ont esclavagé notre conscience, nos esclaves. Et notre esclave, notre maître d'esclave aujourd'hui, ce n'est plus la chaîne qui nous tient. C'est la chaîne mentale qui est là. Qu'on nous a inculqué. On se débrasse et c'est foutu. Et ils seront obligés de venir. On n'a pas cherché quelqu'un, même la France aujourd'hui. On dit seulement, viens, respecte-nous chez nous et traite avec nous concernant nos produits-là, à nos conditions. Est-ce que demander ça, c'est de trop? C'est le minimum. Donc, on a besoin de considération. Si vous ne voulez pas nous donner, on va la prendre, cette considération. Donc, je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'était un plaisir. Et j'espère pour une prochaine fois et prochainement. Je salue tout le monde.
C'est nous qui vous remercions, M. Adama Diabaté, pour cet entretien passionnant et très punchy. J'espère que votre message sera entendu. D'autant plus que vous n'appelez qu'à un droit fondamental de tous les peuples, c'est celui d'être souverain sur son sol, d'avoir le droit au développement, comme tout le monde, ni plus, ni moins. Donc, je vous remercie. Merci. Et j'espère qu'on vous recevra une autre fois pour un autre sujet. Inch'Allah. Merci beaucoup.
S'il plaît, adieu. Merci.
C'était Adama Diabaté, géopolitologue malien. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. partenaire de Radio Maliba FM à Bamako. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.